journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est une page de l'histoire américaine qui est en passe d'être réécrite. Un demi-siècle après l'assassinat de Malcolm X, le procureur de New York veut innocenter deux des trois hommes condamnés pour le meurtre. La police a dissimulé des preuves à l'époque. Incroyable rebondissement qu'on vous raconte dès le début de ce journal. En France, près de 10% de la population a besoin de l'aide alimentaire pour se nourrir correctement. Constat du Secours catholique ce matin. Ça s'est aggravé avec la pandémie. Témoignage d'une bénéficiaire dans le Gard. Au sommaire aussi, le mouvement Balance ton bar qui gagne la France. La stratégie d'Éric Zemmour en question après un coup de mou dans les sondages. Et la Transat Jacques Vabre, nous visiterons le QG de la course installée au domicile de son directeur.
Et attention, attention au micro de Léa Salamé à 7h45. C'est aujourd'hui la chanteuse Adèle, interview exclusive pour la sortie de son nouvel album, 30.
France Inter.
Plus de 50 ans après les faits, Alexis, c'est un rebondissement judiciaire majeur aux États-Unis.
Et qui ravive une cicatrice de l'histoire américaine. New York, 21 février 65. Malcolm X, figure de la lutte afro-américaine, est assassiné ce jour-là par balle en plein discours. Sa mort secoue alors un pays en pleine tension raciale. Trois hommes sont condamnés pour ce meurtre, tous membres de Nation of Islam, le mouvement dont Malcolm X avait fait partie avant de s'en éloigner. Eh bien, un demi-siècle plus tard, deux d'entre eux sont en bonne voie d'être innocentés. C'est la volonté en tout cas du procureur qui dépose le dossier aujourd'hui. Ils ont passé 20 ans en prison, l'un des deux est mort. Loïc Loury, tout est parti en fait d'un documentaire sur cette affaire Malcolm X, comme on le prononce aux États-Unis.
22 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, les mots sont de Mohamed Aziz, 83 ans, dans un documentaire de Netflix qui a tué Malcolm X. Libéré en 1985, il y racontait la vie à côté de laquelle il était passé. Quand j'ai quitté mes enfants, le plus âgé avait 5 ans, et quand je suis sorti en 85, ils étaient adultes, ils avaient des enfants, vivaient leur vie, et ne voulaient pas spécialement écouter ce que j'avais à dire, et c'est pareil aujourd'hui, je ne suis pas vraiment un père. Dossier finalement réexaminé, tout comme celui de Khalil Islam, l'un de ses co-accusés, 22 mois d'enquête et une conclusion, ces deux hommes n'auraient pas dû finir en prison. Le FBI et la police, à l'époque, ont ainsi écarté des éléments susceptibles de les innocenter. Un témoin confirme, lui, l'alibi de Mohamed Aziz, à savoir qu'il était chez lui au moment du meurtre du leader noir. Le dossier sera déposé aujourd'hui devant la Cour suprême de New York, charge à elle de trancher. Tout cela n'aurait jamais dû arrivé a réagi Mohamed Aziz, évoquant un processus corrompu jusqu'à la moelle, qui reste, dit-il, trop familier, même en 2021. New York, Loïc Loury, France Inter.
Nos voisins européens prennent de nouvelles mesures face à la cinquième vague de Covid. Des décisions nationales sont attendues aujourd'hui en Allemagne, alors que la Belgique rend le télétravail obligatoire pour tous les emplois qui le permettent. En France, on l'a frôlé mardi, et bien la barre des 20 000 cas de Covid a été franchie hier.
La pandémie qui a plombé le budget des plus précaires, 7h33, nouvelle confirmation ce matin.
Ah oui, avec ce rapport du Secours catholique sur l'état de la pauvreté, 5 à 7 millions de Français ont eu besoin de l'aide alimentaire l'an dernier. Les demandes de paniers ont sensiblement augmenté en 2020. Parmi les ménages concernés, 27% affirment qu'il leur arrive de ne pas manger pendant une journée entière. Parmi ces bénéficiaires, beaucoup de mères isolées, comme a pu s'en rendre compte Béatrice Duguay.
La précarité a pris clair par surprise, violente surprise pour cette infirmière libérale du Gard.
J'ai fait un AVC en fait le 12 décembre 2019. Donc je suis tombée dans une situation financière très difficile, donc en liquidation judiciaire fin décembre.
Claire perd sa maison, sa voiture, elle dégringole en quelques mois.
Je voyais la précarité dans mon travail, puisque malheureusement les gens âgés avec leur petite retraite se retrouvent dans des situations précaires aussi. Mais c'était un monde à côté du mien. Je ne comprenais pas ce qui arrivait en fait.
Elle, la battante, devient dépendante de son fils notamment pour manger.
Ouais, un poids. Je me sentais un poids pour mes enfants, je me sentais un poids pour la société. Ça a été difficile pour demander le RSA pour moi, dans le sens où je ne me sentais pas légitime même de le demander.
Un choc qui transforme sa vie bien sûr. Son frigo aussi. Fini les coûteux plats cuisinés, fini le gaspillage, car Claire s'investit dans la distribution de panier solidaire dans son village. Opération initiée par le Secours catholique il y a un an pour aider du même coup les producteurs locaux. 20 euros pour des fruits et légumes tous les 15 jours. Les personnes précaires paient 5 euros.
Le fait que je me sois investie là-dedans, déjà je sais ce que je mange, et puis je me sens pas que bénéficiaire. Je trouve que le terme consommateur est vachement mieux. On ne subit plus une situation.
Et d'autant moins qu'un atelier cuisine mêle aussi tous les clients des paniers solidaires.
Et ce rapport du Secours catholique est à retrouver en détail dès maintenant sur franceinter.fr. Précarité alimentaire pour les plus pauvres et plus globalement problème de pouvoir d'achat et de salaire en cet automne. Dans l'hôtellerie-restauration, patrons et syndicats entament aujourd'hui des négociations face à la pénurie de salariés dans cette branche. 235 000 sont partis depuis la crise sanitaire. On va donc parler augmentation des rémunérations, amélioration des conditions de travail. Dossier complet dans le journal de 8h. 10 000 euros d'amende requis contre Éric Zemmour, jugé hier pour ses propos sur les mineurs étrangers isolés, qualifiés de voleurs, violeurs et assassins à l'antenne de CNews l'an dernier. Le jugement sera rendu en janvier. D'ici là, le polémiste aura peut-être annoncé sa candidature à la présidentielle. Dans son camp, en tout cas, on l'attend avec impatience, d'autant que la dynamique sondagière ralentit et que les contrariétés s'accumulent, Élodie Forêt.
Viser des journalistes avec un fusil non chargé, qualifier la France de Vichy, de havre de paix pour les juifs. Plus récemment, s'en prendre à François Hollande le 13 novembre devant le Bataclan.
François Hollande n'a pas protégé les Français.
En deux mois, Éric Zemmour aura multiplié les coups d'éclat. Une stratégie jusque-là payante avec une envolée dans les sondages, mais qui semble aujourd'hui marquer le pas. Frédéric Dabi, directeur de l'IFOP.
La limite de cette radicalité, c'est ce qu'est une élection présidentielle. Quand on regarde l'histoire d'une élection présidentielle, l'imaginaire des Français autour de la présidentielle, c'est quand même une bataille de crédibilité. À qui vais-je confier les clés de la maison France? Et c'est vrai que la radicalité quotidienne, le coup d'éclat permanent pourrait faire perdre en crédibilité Éric Zemmour.
Un constat partagé par le maire de Béziers, Robert Ménard. À un moment, il faut rassurer les Français, mais Éric, lui, continue de faire le pari contraire, dit-il. Quitte à se heurter à un plafond de verre et faire grimper l'hostilité, c'est ce que prédit Jean-Marie Le Pen et ce qu'espère le RN. À la fin, les électeurs privilégieront la sécurité plutôt que cette dinguerie du matin au soir, grince un cadre. Reste à connaître l'effet de la déclaration prochaine de candidature, l'occasion d'un second souffle ou la fin d'un faux suspense sans réel impact dans les sondages.
Élodie Forêt pour Inter. Né en Belgique il y a quelques semaines, le mouvement Balance ton bar commence à gagner la France. Avec ces témoignages de femmes qui disent avoir été droguées à leur insu avec du GHB, des cas signalés dans des bars de Lille, Montpellier, mais aussi Paris, où le quartier de Pigalle semble être particulièrement concerné. 9 plaintes ont été déposées, une enquête est désormais ouverte. Delphine Evenou.
C'était il y a un mois. Clara, 20 ans, passe son samedi soir dans un pub parisien. Elle est abordée par un petit groupe d'hommes qu'elle repousse un quart d'heure plus tard.
J'ai eu très très chaud, presque fiévreuse en fait. Et après, sensation comme si j'étais complètement ivre, de très très violente nausée, jusqu'à en vomir d'ailleurs. L'impression de plus être dans mon corps, d'être complètement ailleurs en fait.
Clara est heureusement prise en charge par ses amis. Des récits comme le sien, le collectif Héroïne 95 en a récolté une soixantaine depuis 2 semaines et demie. Une amie intoxiquée dans un bar de Pigalle, elle cherche des témoins avant de se rendre compte que ce cas n'est pas isolé. Alors les militantes comme ENA sommes les établissements d'agir sous peine de boycott.
Qu'ils aient au moins une personne référente formée dans l'accompagnement des victimes d'agression et que tous les lieux festifs aient un safe place, c'est-à-dire un petit espace permettant de mettre à l'abri les victimes en attendant les secours.
On se trompe de cible, réplique l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie. Laurent Lutz, représentant de la branche café et établissement de nuit.
Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis qu'il faut que tout le monde y mette du sien et que ce soit nous au niveau des entreprises, mais aussi de la clientèle. Il faut aussi que les clientes se responsabilisent aussi et fassent très attention à leur verre.
Une manière de faire porter la responsabilité sur les épaules des victimes, selon les militantes féministes.
À l'étranger, il refuse de s'alimenter depuis 48 jours pour dénoncer son incarcération. L'ancien président géorgien est dans un état critique, selon ses médecins. Allez croire, Mireille Chakachvili ne reçoit pas les soins appropriés.
Il est 7h39 sur la Transat Jacques Vabre. Les premiers devraient arriver, Alexis, dans moins d'une semaine en Martinique.
Oui, au dernier pointage, Franck Camas et Charles Caudrelier sont toujours en tête dans la catégorie ultime. Un abandon vient d'être signalé ce matin, celui de Quito de Pavan et Gwenjby qui sont victimes d'une avarie. Des skippers suivis 24 heures sur 24 depuis une simple maison du Havre. Et pour cause, le directeur de la Transat a installé le QG de la course chez lui. Visite guidée, Jérôme Val.
Il a une bonne cellule.
Un énorme écran est installé devant la bibliothèque. Trois ordinateurs sont posés sur la table.
Après, il faut que faire attention à ça, non ?
Bienvenue au QG de la Transat, dans le salon du directeur de la course, Francis Le Goff.
Il y avait quand même beaucoup de bateaux à suivre, beaucoup de marins aussi. C'était en fait ça, la solution idéale, avoir un PC dans le salon et des chambres pour se reposer.
Aménager le cœur de la course à domicile, c'est une première. 5 personnes se relaient 24 heures sur 24.
Mon début de journée commence à 4h30.
Yann Château est le directeur adjoint.
C'est un format qui me plaît beaucoup parce que ça soude l'équipe de direction de course. C'est à la fois plaisant et fonctionnel.
Car en cas de coup dur, il faut être réactif.
D'abord, on est beaucoup plus serein parce qu'on est tous ensemble. Tout le monde participe à la réflexion. Ça apporte de la richesse et de la réactivité quand c'est nécessaire et quand un événement de mer se déroule.
Et puis être dans un huis clos, il n'y a que des beaux moments à partager, Francis Le Goff.
Même pas une petite anicroche, peut-être au sujet de la cuisine, je cherche, mais peut-être trop de sel, trop de poivre. Non, non, même là, ça s'est bien passé.
Changement de décor dans les prochaines heures, le QG de la course va s'installer ce week-end dans un hôtel en Martinique pour les arrivées.
Le reportage de Jérôme Val au Havre sur cette Transat Jacques Vabre.
Alexis Morel, merci. Thomas Legrand, déjà en place.